Dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum, dum dum da dum.
L'un dans l'autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info local de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
On prend la direction du nord du département, autour du lac de Coiselet, à la frontière entre l'Ain et le Jura. Depuis le printemps, cet espace naturel est sous surveillance renforcée après la détection d'un risque d'effondrement rocheux à proximité immédiate du barrage. Plusieurs arrêtés préfectoraux ont interdit l'accès aux berges et permis d'abaisser le niveau de la retenue d'eau de 4 mètres au printemps. Ces précautions ont été prises dans un objectif simple, protéger la population. Car un glissement majeur pourrait créer une vague et fragiliser l'ouvrage. Dans le pire scénario, provoquer une onde de submersion sur la vallée de l'Ain jusqu'aux portes de Lyon. Ces dernières semaines, différents services de l'État, les collectivités locales et l'exploitant du barrage EDF ont poursuivi des analyses géotechniques. Une solution a été retenue, le clouage du bloc rocheux avec des travaux de consolidation prévus dès la mi-décembre. Alors comment l'État se prépare? Comment la préfecture de l'Ain organise la coopération entre services pour anticiper le risque et informer les habitants? On fait le point avec notre invitée, Madame Tessa, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de l'Ain. Elle coordonne l'action des services dans toutes les composantes de la sécurité, prévention de la délinquance, sécurité routière, sécurité publique et sécurité civile.
On la retrouve tout de suite après les brèves.
L'Ain dans l'autre, les brèves.
Hashtag ne rien laisser passer. Tous mobilisés contre les violences faites aux femmes.
Selon les chiffres du gouvernement en 2024, 8 femmes sur 10 sont confrontées à au moins une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue ou les transports en commun au cours de leur vie. 85% des victimes de crimes et de délits à caractère sexuel déclarés en police ou gendarmerie sont des femmes.
L'ONU, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, a proclamé le 25 novembre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
L'ONU invite donc les gouvernements, les organismes internationaux et les organisations non gouvernementales à organiser ce jour-là des actions pour sensibiliser l'opinion au problème des violences faites aux femmes. Dans le cadre de cette journée, le Centre psychothérapique de l'Ain se mobilise en proposant une journée d'animation et de discussion autour du violentomètre qui aura lieu le 27 novembre en présence du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Ain.
Le violentomètre est un outil pour sensibiliser aux violences conjugales en mesurant si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et comporte ou pas des violences.
Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez aller sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Il existe aussi un numéro de téléphone d'urgence, le 3919.
Opération boîte à chaussures.
Pour offrir un Noël plus doux à ceux qui en ont besoin, préparez une boîte solidaire. L'idée est de proposer plusieurs cadeaux dans des boîtes à chaussures qui seront distribuées au moment des fêtes pour les par des bénévoles d'associations caritatives.
Cette initiative est portée par l'atelier Éco-Citoyen.
À partir du 6 décembre, vous pouvez rassembler un vêtement chaud, un produit d'hygiène, une gourmandise, un loisir et un petit mot bienveillant dans votre boîte et la déposer avant le 20 décembre dans l'un des points de collecte. Comme à l'atelier Éco-Citoyen à Bourg-en-Bresse, à l'Agora Pôle Social Culturel de Pérona ou dans de nombreuses mairies et médiathèques du département. Tous les lieux des dépôts sont répertoriés sur la page Facebook de l'association Éco-Citoyen de l'Ain.
Les impacts humains du changement climatique.
Longtemps, le changement climatique a été considéré comme un problème strictement environnemental. Les impacts humains sont pourtant considérables, même s'ils restent parfois mal connus. On se rend compte désormais que les grands enjeux du XXIe siècle, qu'il s'agisse de sécurité, de migration, de développement, de santé publique ou d'agriculture, seront profondément traversés par la question climatique.
Pour discuter de ces enjeux, François Gémen, spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, sera présent lors d'une conférence organisée dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire.
Il sera question de faire le point sur les principaux impacts humains du changement climatique, en montrant combien l'enjeu fondamental de la lutte contre le changement climatique n'est pas tant de changer le climat que de garder la Terre habitable pour tous.
Cette conférence aura lieu le 3 décembre 2025 à 18h à la salle des fêtes Pierre Chambaud de Pérona.
À savoir, lors de cette même journée, une fresque du climat sera organisée par sera organisé par la GLCA, il sera possible d'y participer sur inscription.
L'un dans l'autre, l'interview.
Nous avons donc rencontré Madame Tessa, directrice du cabinet de la préfète de l'Ain. Elle revient avec nous sur la situation autour du barrage de Coiselet, situé au sud du lac de Vouglans, les mesures mises en place depuis le mois de mai et la manière dont les services de l'État travaillent ensemble pour sécuriser le site et protéger les populations. On parle aussi des travaux à venir, de la résilience des populations. Écoutez.
Bonjour.
Bonjour.
En tant que directrice du cabinet de la préfète de l'Ain, l'une de vos missions principales est la protection des biens et des personnes. Depuis le printemps 2025, on entend parler du risque de glissement d'un bloc rocheux à proximité du barrage de Coiselet. Où en est la situation actuellement ?
Alors, en effet, comme vous l'avez dit, au mois de mai 2025, EDF, qui est l'entreprise qui exploite le barrage de Coiselet, a identifié un risque de glissement rocheux sur une falaise qui est située à proximité de la retenue d'eau du barrage. Et pour répondre à votre question, la situation évidemment est sous contrôle puisque conjointement, les préfets du Jura et la préfète de l'Ain ont pris des mesures d'urgence, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à EDF d'abaisser le niveau de la retenue d'eau. Et je pense qu'on va pouvoir expliquer pourquoi cette mesure d'urgence était nécessaire.
Effectivement, donc quels seraient d'abord les risques liés au glissement du bloc dans la réserve d'eau ?
Alors pour l'expliquer en des termes très simples, le risque qui était identifié aurait été qu'en cas de glissement de terrain, donc de chute d'un bloc rocheux, ce bloc rocheux puisse tomber dans la retenue d'eau du barrage, donc le lac artificiel du barrage, et que en raison de cette chute puisse se créer une vague qui aurait mis en danger, qui aurait fragilisé la structure du barrage. Donc pour éviter ça, le 24 mai 2025, le préfet du Jura et la préfète de l'Ain ont pris un arrêté et par cet arrêté, ils ont prescrit l'abaissement du niveau d'eau dans la retenue. Et avec cet abaissement, on savait que même en cas de glissement d'un bloc rocheux, on n'avait plus ce risque d'une vague importante qui pouvait fragiliser le barrage. Donc ça, c'est la mesure vraiment d'urgence qui a été prise. Elle s'est accompagnée évidemment d'une surveillance étroite puisque quand on abaisse le niveau d'eau comme ça d'un barrage, eh ben, il peut y avoir des conséquences, notamment environnementales le long de la rivière d'Ain. Donc ça, on l'a surveillé de près depuis le mois de mai et c'est bien maîtrisé. Et puis, bien sûr, l'autre chose que le préfet du Jura et la préfète de l'Ain ont fait rapidement, c'est de demander à la fois à EDF, l'exploitant, et puis à d'autres services, notamment le BRGM, des études complémentaires pour trouver une solution, puisque l'abaissement du niveau d'eau du lac n'est pas satisfaisant sur le long terme. Il n'est pas satisfaisant déjà parce qu'il empêche d'exploiter correctement le barrage, et puis c'est pas satisfaisant aussi parce qu'il y a tout un tas d'activités autour de ce lac. Alors ce lac, il est situé dans le Jura, à la frontière immédiate avec le département de l'Ain. Mais c'est vrai que autour de cette retenue d'eau, il y a un certain nombre d'activités, de loisirs, de pêche, etc., qui sont fortement perturbées par l'abaissement de ce niveau d'eau. Donc l'objectif, c'est de revenir à la normale. Et ça, c'est la phase dans laquelle on se trouve maintenant, cette phase de retour à la normale.
Merci. Alors justement, la décision de baisser le niveau d'eau de la retenue... La décision de baisser le niveau d'eau donc, a été prise en mai, puis reconduite le 11 août. Comment une telle décision est prise ?
Alors, évidemment, votre question pose la question de la coordination, je pense. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'un côté l'exploitant du barrage, donc EDF. C'est évidemment le EDF qui est d'abord responsable de la sécurité de son installation, de son ouvrage. C'est EDF qui a fait l'étude de danger, qui a mis en évidence le risque de glissement rocheux dont on se parle. C'est bien à ça que servent ces études. Et en face et en dialogue avec EDF, il y a les services de l'État, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du logement, la DREAL, qui en fait assure le contrôle de ces grands barrages, hein, puisque bien sûr ces ouvrages, par leur taille et puis par leur activité, eh bien, présentent des risques particuliers. Et donc, partout en France, les DREAL assurent un contrôle sur ces barrages. Donc là, c'est la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, hein, en lien avec la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, hein, puisqu'il y a aussi, comme je vous le disais, les impacts sur l'aval, qui ont fait une analyse technique précise et qui ont pu proposer aux deux préfets, préfet du Jura et préfet de l'Ain, les mesures qu'il fallait prendre. Donc vous avez raison de dire qu'il y a un travail de coordination important. D'abord une phase d'analyse technique, on récupère les données, on fait une analyse, et puis ensuite on prend les mesures qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, ça évidemment c'est la priorité, et également on pense aux conséquences de ces mesures. Donc il y a d'autres services de l'État notamment qui sont mobilisés, notamment l'Agence régionale de santé, la direction territoriale de l'Ain a été mobilisée pour faire des analyses le long du cours d'eau de la rivière d'Ain en aval, pour vérifier que l'abaissement de la retenue n'avait pas dégrader la qualité de l'eau, puisque dans la rivière d'Ain, il y a des captages d'eau potable. Ça, c'est un exemple. La direction départementale des territoires et l'Office français de la biodiversité étaient aussi mobilisés sur ce tronçon aval pour vérifier les impacts de cet abaissement sur le vivant, sur le milieu naturel, sur la faune. Donc vous voyez, voilà, il y a effectivement toute cette coordination. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce type de situation, ce qui prime, c'est évidemment de prendre en urgence les mesures qui permettent de protéger la population.
Alors vous en avez parlé, donc le Bureau de recherche géologique et minière et la DREAL du Jura ont permis de mettre en évidence une solution optimale pour l'instant, donc le clouage du bloc rocheux. La préfecture de l'Ain a pris part aussi à ce choix ?
L'importance, en effet, c'était de trouver une solution technique, les bons travaux à mener pour permettre de résoudre ce problème de risque de glissement de terrain et ainsi permettre un retour à la normale du fonctionnement du barrage et aussi un retour à la normale sur la retenue d'eau et les activités qui vont avec. Donc, comme vous l'avez dit, c'est les études qui ont été menées à la demande du préfet du Jura, BRGM et DREAL, qui ont permis, en lien avec l'exploitant, de déterminer la meilleure option. Il y a plusieurs critères qui ont été pris en compte, notamment celle qui apporte la meilleure protection pour le bloc rocheux, mais aussi, par exemple, la durée des travaux. Donc, cette solution du clouage du bloc rocheux, elle a l'avantage de l'efficacité, c'est-à-dire qu'elle est pertinente, performante pour réduire le risque de chute de bloc rocheux. Sa faisabilité technique a pu être vérifiée et puis elle limite aussi l'impact sur les habitants du secteur pendant le travaux, puisque il va y avoir une phase de travaux qui devrait commencer à la mi-décembre pour une fin de travaux attendue en février 2026. Donc c'est une période de travaux qui est assez contenue, assez limitée, même si bien sûr pendant cette période de travaux il y aura un impact, mais c'est plutôt dans le département du Jura, et donc c'est vraiment la préfecture du Jura qui va être en charge de coordonner ça, de communiquer auprès des maires, notamment des collectivités territoriales, auprès de la population, pour que les habitants soient bien informés au fur et à mesure de l'impact sur leur secteur.
En matière de protection des populations en aval, existe-t-il un plan d'intervention et comment les habitants du secteur, donc là on parle bien de l'Ain, sont-ils informés et si besoin préparés ?
Alors, en effet, dans le cadre de ce qu'on appelle le dispositif ORSEC, donc ORSEC, ça veut dire Organisation de la Réponse de Sécurité Civile. Donc, le dispositif ORSEC, en fait, c'est le cadre national qu'on a en France pour se préparer à la gestion de crise. Et dans le cadre de ce dispositif ORSEC, il y a des plans qu'on appelle plans particuliers d'intervention. Les PPI, souvent, on utilise ce raccourci. Et pour des barrages d'une certaine taille, comme le barrage de Coiselet, eh bien, on élabore ces plans particuliers d'intervention. Le plan particulier d'intervention qui concerne le barrage de Coiselet, il est en fait placé sous la responsabilité de la préfète de l'Ain, puisque tout à l'heure, je vous disais, le barrage lui-même, il est dans le Jura, à proximité immédiate de l'Ain, mais finalement, le risque créé par le barrage, il est principalement en aval. Hein, c'est logique, puisque le risque qu'on craint notamment, c'est le risque de submersion. Ça se passe en aval. Et donc l'aval, en fait, c'est beaucoup dans le département de l'Ain. Ce plan particulier d'intervention, il est élaboré à plusieurs départements. Hein. L'Isère est concernée, le Jura est concerné, l'Ain est concerné, mais il y a un préfet qui est coordonnateur, qui est responsable de ce plan et de sa mise en œuvre, et en l'occurrence, la préfète de l'Ain. Alors, finalement, un plan particulier d'intervention, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un plan dans lequel on identifie quel est le risque, c'est-à-dire de quoi on parle, quel est le risque dont on parle, quels sont les acteurs qu'il faudrait mobiliser si jamais le risque se réalise, et quelle est la principale stratégie de gestion de crise. Et donc on a ces éléments dans ce plan, et donc c'est vraiment le fil conducteur qui fait qu'on sait ce qu'on a à faire si jamais une crise se produit. Et évidemment, l'importance d'avoir des plans particuliers d'intervention, c'est aussi d'informer la population. Le PPI du barrage de Coiselet, il est consultable par le public. Vous le trouvez sur le site des services de l'État dans l'Ain. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer ce qu'on appelle une culture du risque. Et on le fait particulièrement dans le cadre d'une opération nationale qui s'appelle la Journée nationale de la résilience. Donc la date de la Journée nationale de la résilience, c'est le 13 octobre chaque année. Mais maintenant, on a un cycle de sensibilisation autour de cette thématique de la résilience qui est beaucoup plus large, qui s'étend sur plusieurs mois. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire ? En fait, on essaye d'inviter la population, chaque personne en tant que citoyen, en tant que citoyenne, à s'intéresser aux risques autour de chez soi. Donc là, on élargit un petit peu par rapport à la seule problématique du barrage de Coiselet. Mais être résilient, c'est quoi ? C'est se dire, moi j'habite dans telle commune et je sais que dans ma commune, il y a par exemple un risque d'inondation, il y a un risque lié à la présence d'un barrage ou à la présence d'une entreprise particulière qui a un risque industriel particulier. Donc c'est connaître les risques, connaître les conduites à tenir et se préparer aussi en famille, avoir préparé son petit kit d'urgence. Notamment pendant tout ce mois, pendant toute cette période de l'automne, on organise en particulier à destination de la jeunesse, dans les écoles primaires, pour les classes de CM1, CM2, dans les collèges, des interventions, des sensibilisations pour développer cette culture de risque et faire prendre conscience à tout le monde que la résilience, c'est l'affaire de tous. Donc voilà, le plan particulier d'intervention, c'est aussi effectivement un outil d'information pour la population sur les risques existants.
Alors, au-delà de cette phase de gestion de crise, comment se structure l'évaluation du risque à plus long terme pour éviter une reproduction de cette situation ? Donc là, je parle évidemment du barrage.
Effectivement, l'étude de danger a permis de mettre en évidence l'existence d'un risque de glissement de terrain, de chute de blocs rocheux. Et il y a une mesure aussi qui a été prise dont on n'a pas encore parlé, c'est que l'exploitant EDF a mis en place des outils de surveillance, a outillé finalement ce secteur et la falaise. Et en fait, maintenant, la falaise est surveillée et va l'être sur le long terme pour détecter en fait des évolutions de la falaise ou des mouvements de la falaise qui seraient susceptibles de présager d'un mouvement. Donc ça, c'est vraiment les spécialistes, les ingénieurs qui font ça. Mais ça se fait en effet aussi sous le contrôle de l'État, l'ADREAL Bourgogne-Franche-Comté dont on a déjà parlé, qui a aussi demandé à EDF de mettre en place cette surveillance de la falaise.
Madame Tessa, merci beaucoup.
Merci à vous, merci pour vos questions.
Merci à la directrice de cabinet de la préfète de l'Ain, Madame Tessa, pour ses précisions.
Pour suivre l'évolution de la situation, les arrêtés en vigueur et les travaux de sécurisation, vous pouvez consulter le site de la préfecture de l'Ain, les communiqués officiels ainsi que les informations diffusées par les mairies concernées.
Sous réserve des conclusions de l'étude d'impact environnemental en cours, le démarrage des travaux est prévu à la mi-décembre 2025 pour une durée estimée de 2 mois, avec une finalisation attendue en février 2025.
Les travaux entraîneront une déviation sur la route départementale 60 dans le sud du Jura, ce qui rallongera les trajets d'environ 40 minutes.
Vous écoutez L'Ain dans l'Autre,
le mag d'info locale
sur Radio B.
L'Ain dans l'Autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Perrine.
Merci Elsa et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.